Chapitre 9. Quand Kenji Watanabe descendit du train à Hakone, il se rappela un précédent rendez-vous avec Toshio Nakamura des années plus tôt sur une planète éloignée de plusieurs milliards de kilomètres.
Il m'avait téléphoné,
pensa-t-il.
Il voulait me parler de Keiko.
Il s'arrêta devant une vitrine pour redresser sa cravate. Le verre lui renvoyait le reflet déformé d'un adolescent qui allait affronter son rival.
Il y a si longtemps, et nous seuls étions en cause. À présent, c'est tout l'avenir de ce monde qui est en jeu.
Nae avait tenté de le dissuader d'aller voir Nakamura. Elle l'avait poussé à demander l'avis de Nicole, qui s'était elle aussi opposée à une telle rencontre.
Toshio Nakamura est un mégalomane privé de tout sens moral,
avait-elle dit.
Rien de positif ne peut en résulter. Il veut simplement découvrir vos faiblesses. Il se dit capable de réduire les tensions.
À quel prix?
Méfiez-vous de ses conditions. Il ne vous donnera rien sans contrepartie.
Alors pourquoi es-tu venu? Lui demanda une voix intérieure, tandis qu'il regardait le palais où vivait son ex-camarade d'études.
Je l'ignore,
répondit une autre voix.
Pour défendre mon honneur? Ou encore par fierté?
La résidence de Nakamura et les maisons environnantes étaient en bois, dans le style architectural classique de Kyoto. Les toiles de tuiles bleues, les jardins bien entretenus, les arbres taillés et les allées immaculées lui rappelaient sa ville natale sur un monde lointain. La porte fut ouverte par une jeune japonaise ravissante en sandales et kimono qui s'inclina et lui dit
« Ohairi kudasai ».
Conformément aux usages de son pays d'origine. Kenji se déchaussa et mit lui aussi des sandales. La fille garda les yeux baissés pour le guider dans une enfilade de pièces de style occidental jusqu'à la partie japonaise où, disait-on, Nakamura passait son temps à batifoler avec ses concubines. Elle fit coulisser un panneau de papier de soie décoré de grues en plein vol.
Dozo,
dit-elle. Kenji entra et s'assit en tailleur sur un des deux coussins placés devant une table noire laquée.
Il va me faire attendre. Ça fait partie de sa stratégie.
Une autre jolie jeune fille en kimono pastel entra sans bruit et lui servit du thé. Kenji le but à petites gorgées tout en parcourant les lieux du regard. Il y avait dans un angle un paravent de bois aux quatre panneaux délicatement ciselés. Il se leva pour l'observer de plus près. Il avait sous les yeux des paysages du Japon au fil des saisons. Une station de ski sous la neige pour l'hiver, des cerisiers en fleurs le long du fleuve Kama à Kyoto pour le printemps, la blancheur du sommet du Fujiyama surplombant une campagne verdoyante pour l'été, une débauche de couleurs dans la ramure des arbres entourant le mausolée de la famille Tokugawa à Nikkō pour l'automne.
Tant de beauté,
se dit-il avec nostalgie.
Toshio voudrait recréer le monde que nous avons quitté. Mais pourquoi? Pourquoi dépense-t-il son argent, si mal acquis, pour se procurer des œuvres d'art aussi belles? C'est un homme étrange, dont je ne puis cerner la personnalité.
L'autre côté représentait un Japon différent. Les riches couleurs des étendards déployés lors de la prise du château d'Osaka au début du XVIIe siècle, cette bataille qui avait fait d'Ieyasu Tokugawa un shogun pratiquement sans rival. Les personnages étaient innombrables, samouraïs au combat, courtisans qui s'égayaient et même le seigneur Tokugawa lui-même, plus grand que les autres et jubilant de sa victoire. Kenji fut amusé de lui trouver une forte ressemblance avec Nakamura. Il allait se rasseoir quand ce dernier entra.
Omashido sama deshita,
fit-il en s'inclinant légèrement dans sa direction. Kenji en fit autant, médusé de voir son adversaire affublé d'une tenue de samouraï, sabre et dague inclus.
Cette mise en scène est destinée à me décontenancer ou à m'intimider.
Ano, hajime mashoka,
ajouta Nakamura en s'asseyant en face de lui. Koshaga oshi desu, ne?
Totemo ishi desu.
Le thé était effectivement excellent.
Mais il n'est pas mon shogun, et je dois le remettre à sa place avant de passer aux choses sérieuses.
Ce fut donc en anglais qu'il lui dit
« Nakamura-san, nous sommes deux hommes fort occupés. Oublions les usages et entrons dans le vif du sujet. Votre représentant m'a dit par vidéophone que les événements de ces dernières 24 heures vous ennuyaient et que vous aviez à me faire des suggestions pour redresser la situation. »
L'expression de Nakamura resta inchangée, mais sa voix sèche traduisit son mécontentement.
Je constate que vous ne faites plus aucun cas de nos usages, Watanabe-san. Il est impoli d'aborder n'importe quel sujet avant d'avoir complimenté son hôte sur sa demeure et de s'être enquis de sa santé. De telles entorses aux convenances sont toujours à l'origine de tensions regrettables.
Je n'ai pas de leçon de savoir-vivre à recevoir de vous. En outre, nous ne sommes plus au Japon, pas même sur Terre, et nos coutumes sont presque aussi désuètes que votre tenue.
Il n'avait pas eu l'intention d'insulter son interlocuteur, mais c'était le meilleur moyen de l'inciter à abattre ses cartes. Nakamura se leva si brusquement que Kenji crut un instant qu'il tirerait son sabre.
« Entendu !»
gronda l'homme. « Je serai donc direct. Vous avez perdu le contrôle de la colonie.
Le peuple ne veut plus de vous et parle de destitution et d'insurrection. Vous n'avez pas su régler les problèmes posés par l'environnement et le RV-41. Et voilà que cette négresse annonce après d'innombrables reports du procès qu'un violeur de sa race ne sera pas soumis au verdict d'un jury populaire. Des personnalités soucieuses de l'avenir de notre communauté m'ont chargé de vous convaincre de faire le nécessaire pour éviter un bain de sang.
C'est incroyable. Il est fou allié,
pensa le gouverneur.
Vous me demandez de démissionner?
Oui,
confirma Nakamura sur un ton autoritaire.
Mais attendez demain et prévalez-vous des privilèges de votre charge pour dessaisir Nicole Desjardins de l'affaire Martinez. Cette femme a trop d'idées préconçues. Les juges Yanella ou Rodriguez seront plus objectifs. Vous noterez au passage que je n'ai pas cité Nishimura.
Est-ce tout?
Une dernière chose. Dites à Ulanov de ne pas se présenter aux élections. Il n'a aucune chance de gagner, et diviser la population ne fera que compliquer la tâche de Macmillan lorsqu'il occupera votre poste. Les humains doivent s'unir. Quels que soient les êtres qui occupent l'autre habitat, ils font peser une grave menace sur notre colonie. Ces faucheux, en qui vous voyez d'inoffensifs observateurs, ne sont que leur avant-garde.
Kenji était sidéré. Nakamura venait de perdre la raison, à moins qu'il n'eût toujours été ainsi.
« Le temps presse, » ajoutait Nakamura, « surtout en ce qui concerne l'affaire Martinez et votre démission. J'ai demandé à Kobayashi-san et aux autres membres de la communauté asiatique d'attendre, mais leur patience a des limites. Mariko avait un avenir radieux devant elle. Dans sa lettre d'adieu, elle a déclaré qu'elle ne pouvait supporter le déshonneur qui découlait des reports continuels du procès de son violeur. La colère est profonde dans tout.
Le gouverneur ne put se contenir plus longtemps.
Savez-vous qu'on a trouvé le sperme de deux hommes dans les prélèvements pratiqués après ce soi-disant viol? Le problème, c'est que quand le juge Desjardins lui a précisé que nous détenions la preuve qu'elle avait eu des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, Mariko n'est pas revenue sur ses précédentes dépositions.
Nakamura perdit de sa belle assurance.
Nous n'avons pu identifier le second individu, car les échantillons de son sperme ont mystérieusement disparu du laboratoire avant l'analyse de l'ADN,
ajouta Kenji.
Mais nous disposons des résultats du premier examen.
Une erreur a dû être commise, affirma Nakamura, qui recouvrait son arrogance.
C'est improbable, et vous connaissez à présent le dilemme auquel est confronté le juge des jardins. Tous les colons pensent que Pedro est coupable, et elle craint une erreur judiciaire.
Il y eut un long silence. Le gouverneur se leva.
Vous m'étonnez, Watanabe, dit finalement Nakamura. Vous n'avez donc pas saisi le fond de ma pensée. Que ce Martinez ait ou non violé Mariko Kobayashi importe peu, dès l'instant où j'ai promis au père de la victime qu'il subirait un châtiment exemplaire.
Kenji le regarda avec dégoût.
Je préfère partir avant de perdre mon calme, dit-il. Réfléchissez bien,
lança Nakamura.
C'est ma première et dernière offre.
Kenji secoua la tête et tira le panneau de papier de soie pour sortir. Nicole était sur une plage sous un soleil radieux. Elle avait devant elle Ali et le docteur Turner. Sa fille portait une robe blanche, mais son futur époux était en maillot de bain. L'arrière-grand-père de Nicole, Homais, procédait à la cérémonie en longue robe tribale. Homais joignit les mains des jeunes mariés, puis entama une mélopée en sénoufo. Il leva les yeux vers un avion solitaire qui prenait son essor en ponctuant le chant nuptial de ses cris. À cet instant, le ciel s'assombrit. Des nuages d'orage arrivèrent du large. L'océan s'agita et le vent souffla. Les invités s'égayèrent vers l'intérieur des terres pour fuir la tempête. Nicole ne pouvait bouger, fascinée par une chose qui dansait sur les vagues. Un grand sac en plastique vert approchait du rivage. Elle eût aimé s'en saisir, mais les lames l'intimidaient. Elle tendit le doigt et cria pour réclamer de l'aide. Dans l'angle supérieur gauche de l'écran de ce songe apparut une pirogue. Lorsque l'embarcation fut plus proche, elle put constater que ses 8 occupants étaient de petits extraterrestres à la peau orangée. Ils semblaient faits de pâte à pain, et s'ils avaient des yeux et un visage, ils étaient dépourvus de tout système pileux. Ils virèrent vers le grand sac vert et s'en saisirent. Ils vinrent le déposer sur la plage. Nicole attendit qu'il soit reparti vers le large, puis les salua de la main et alla vers le sac. Elle tira avec précaution sa fermeture à glissière, rabattit la partie supérieure et découvrit le cadavre de Kenji Watanabe. Elle frissonna, hurla et s'assit dans son lit. Elle tendit la main vers Richard et constata qu'elle était seule. L'horloge digitale de la table de chevet indiquait 2h48. Elle reprit le contrôle de sa respiration et tenta d'oublier ce cauchemar. En vain. Elle se dirigea vers la salle de bain et se souvint des rêves prémonitoires qui avaient annoncé la mort de sa mère.
Et si Kenji allait vraiment mourir?
Se demanda-t-elle, au bord de la panique. Elle essaya de penser à autre chose.
Où peut-être aller Richard, à une heure pareille?
Elle enfila son peignoir et sortit dans le couloir. Elle passa sans bruit devant la chambre des enfants. Benji ronflait comme toujours. La lumière brillait dans le cabinet de travail, mais son compagnon ne s'y trouvait pas. Deux des biotes qu'il avait modifiées et le prince Hal avaient également disparu. Un des moniteurs était allumé. Elle sourit et tapa Nicole sur le clavier. Un texte apparut sur l'écran.
« Mon amour, lut-elle, si tu te réveilles avant mon retour, ne t'inquiète surtout pas. Je compte rentrer à l'aube à 8 heures au plus tard. J'ai des raisons de croire qu'on espionne mes travaux sur les biotes de la série 300. Tu sais, ceux qui ne sont pas entièrement préprogrammés, ceux qui permettent de les spécialiser, et c'est pourquoi j'ai accéléré mes travaux et suis allé effectuer un dernier test. Je t'aime, Richard. » La température était basse et l'obscurité profonde dans la plaine centrale.
Richard envoya ses biotes, l'Einstein qu'il appelait Super Albert et Garcia 325, au site de sondage du second habitat. Il les avait programmés pour qu'ils fassent croire à la gardienne, une Garcia de type standard, qu'ils étaient chargés d'une mission spéciale. Super Albert dégagea le passage de tout le matériel qui s'y trouvait, sous prétexte de l'examiner. Cela lui prit une heure, mais il adressa finalement un signe à Richard, qui approcha, pendant que Garcia 325 se chargeait d'éloigner sa congénère. Sans perdre de temps, Richard sortit le prince Hal de sa poche et le posa dans l'ouverture.
« Fais vite !»
lui dit-il. Le tunnel conduisant dans le second habitat avait été élargi au fil des semaines et mesurait à présent 80 cm de côté. C'était plus que suffisant pour le petit robot. Le prince Hal courut jusqu'à l'extrémité du boyau qui débouchait sur un à-pic de près d'un mètre. Il colla un petit câble au sol, puis se laissa glisser. Richard suivait sa progression sur l'écran de l'ordinateur de poche et lui transmettait des instructions par radio. Ainsi qu'il l'avait prévu, l'autre monde clos était ceint d'un couloir annulaire. La conception des deux modules est identique, pensa-t-il. Il s'attendait également à trouver une ouverture dans la paroi interne, le passage qu'empruntaient les faucheux, et espérait que la petite taille de son éclaireur lui permettrait de s'y glisser. Hal localisa rapidement l'entrée, mais elle s'ouvrait à plus de 20 mètres du sol. Richard avait vu les faucheux se déplacer sur des surfaces verticales dans les vidéos prises à Avalon, et il avait prévu cette éventualité.
« Grimpe !»
ordonna-t-il au prince après avoir jeté un coup d'œil à sa montre. Il est bientôt 6 heures, et au lever de l'aube, chercheurs et ingénieurs regagneraient le chantier. Proportionnellement à la taille du petit robot, c'était l'équivalent de l'ascension par un homme d'une tour de 60 étages. Le prince s'était entraîné sur les parois de la maison, mais il devrait pour la première fois réaliser cet exploit sans avoir son créateur à ses côtés. Les prises seraient-elles assez nombreuses? Ce que Richard voyait sur le moniteur ne lui permettait pas de se prononcer. Hal glissa et resta suspendu par les mains, mais il effectua un rétablissement et reprit son escalade. Une demi-heure plus tard, il se hissait sur le rebord d'une ouverture circulaire condamnée par un grillage. Richard lui donna l'ordre de regarder entre les mailles.
« La gardienne me déclare qu'elle va revenir à son poste », annonça par radio Garcia 325. « Elle doit faire un rapport à 6h30. »«
Merde, il ne reste que 6 minutes. »
Il déplaça Hal, mais ne put rien discerner de l'autre côté.
« Hurle ! Hurle, jusqu'à ce que je te dise d'arrêter !»
ordonna-t-il en montant à fond le volume du nouvel amplificateur du prince. Il ne l'avait encore jamais testé à pleine puissance et sursauta en entendant l'imitation du cri d'un avion se réverbérer à l'intérieur du passage.
« Absolument parfait !» se dit-il. « Si mes souvenirs sont bons, naturellement. »
La gardienne arriva. Comme le voulait son programme, elle lui demanda son ID card et les raisons de sa présence en ce lieu. Super Albert et Garcia 325 tentèrent de faire diversion, mais face au mutisme de l'homme, la biote déclara qu'elle devait en référer à ses supérieurs. Au même instant, Richard vit sur le petit écran la grille s'ouvrir et 6 faucheux se ruer sur le prince Hal qui s'égosillait toujours. La gardienne émettait un rapport. Il fallait fuir au plus tôt.
« Reviens, Hal ! Reviens, bon sang !»
Richard surveillait à la fois le moniteur et la plaine centrale. Nulle lumière n'approchait. Il pensa à un tour joué par son imagination, mais il les entendit à nouveau. Des battements d'ailes. Un faucheux réduisait le champ de la caméra, puis il vit une serre approcher du prince. Un cri d'avien confirma ses suppositions et l'image se brouilla.
« Reviens si tu en as la possibilité !»
cria Richard dans le micro.
« Je passerai te récupérer plus tard !»
Il glissa le moniteur dans son sac.
Partons, dit-il à ses biotes.
Ils s'éloignèrent au pas de course vers le Nouvel Éden.
Richard jubilait. J'avais vu juste, se disait-il. Ça change tout.
Mais avant de passer à la suite du programme, je dois marier ma fille.